Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 11h07, merci beaucoup d'écouter les grandes gueules du sport en direct jusqu'à midi avec Fred Weiss, Pascal Duprat, Olivier Giraud ce matin. Si vous vous réveillez seulement maintenant, déjà vous avez de la chance, vous pouvez retrouver le podcast dès maintenant sur l'appli RMC, n'hésitez pas. On a eu pas mal de très bons débats avec de très bonnes GG ce matin. Dans 30 minutes, on espère qu'elles vont continuer sur leur lancée lors du dossier des GG autour de l'idée des grilles inversées en Formule 1. C'est relancé cette idée-là. En gros, le dernier partirait premier, le premier partirait dernier, vous l'avez bien compris. L'idée relancée par le patron de la F1 qui imagine la mettre en place pour les courses sprint. On vous attend au 30-16 pour en débattre avec nos GG. Et puis à 11h45, le débat caché, les GG qui ne savent rien et qui vont devoir débattre pourtant dans quelques instants. Et on est d'accord, vous ne savez absolument rien.
Pas d'idée.
Rien.
Non, non.
Rien du tout, Olivier, non plus.
Rien.
Non, rien du tout.
Voilà, ouais, rien du tout.
C'est comme d'habitude.
Comme d'habitude, c'est le principe en même temps de la séquence. Allez, d'abord l'événement aux États-Unis. C'est pas la rencontre Trump-Poutine en Alaska. Hein. C'est à Cincinnati que ça se passe.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Terence Atman with the biggest win of his career. He has beaten down Taylor Fritz's door.
Cincinnati, get on your feet for Terence Atman. It's another shot. It's another top 10 win. Holger Rune is out.
Ça aussi, c'est dans le jukebox de Pascal Duprat, je suis sûr.
Non, non.
Ah non, pas ça.
Non,
non, d'accord. Okay.
Non, très peu.
Ok.
Très peu. Un petit peu, mais pas.
De temps en temps, comme ça. Terence Atman, donc, c'est de lui dont il s'agit. 23 ans, qui vit actuellement le plus grand moment de sa carrière, qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Cincinnati. Il affronte tout à l'heure Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, après avoir sorti notamment Taylor Fritz et Holger Rune. Un parcours incroyable pour celui qui était 136e mondial avant ce tournoi américain. Alors, les GG, doit-on arrêter de dénigrer le tennis français? Oui ou non? Fred Weiss.
Non, on adore ça.
Pascal Duprat.
Oui.
Olivier Giraud. Oui,
le dénigrer, oui, mais on va continuer à le critiquer, quoi. Faudra le faire.
Ah d'accord, on continue de dénigrer.
Non, dénigrer et critiquer, c'est pas la même chose.
Oui, mais c'est volontairement. Moi non plus, je dénigre, je trouve que c'est un peu fort, évidemment, moi aussi.
Avant d'en débattre, on va accueillir Eric Salio dans les GG. Salut Eric.
Salut les grandes gueules.
Salut Eric.
Salut Eric.
Il faut évidemment que tu nous présentes ce joueur que beaucoup découvrent à l'occasion de ce tournoi, Terence Atman.
Oui, peut-être parce qu'il est HPI, il a un QI de 158. Terence Atman ne fait rien comme les autres. La plupart des Français profitent de la caisse de résonance de Roland-Garros pour craquer les performances, comme Louis Boisson ou Hugo Gaston. Le Nordiste, lui, a vécu un calvaire Port d'Auteuil lors de ses trois apparitions. En 2023, il perd en premier tour des qualifs. L'an passé, il mène 2-7-0 face à un Autrichien avant de se faire renverser. Et surtout, il a balancé une balle en tribune qui a touché une spectatrice. Pas de disqualification, mais une amende de 23 000 euros. Et cette année, il se manque totalement sur le central face à Richard Gasquet. Balle dans les bâches, crampe de stress, poignée de main très fraîche. Les critiques ont fusé, d'autant qu'il avait bénéficié d'une invitation. Avec le recul, Franck Pack, le président de son club du TC Boulogne-sur-Mer, estime que ce match a servi de déclic.
En fait, de cette réunion, je pense qu'elle a été salvatrice, puisque Terence, quand il est sorti de cette réunion, il a dit « Mais les gens, là, pensent ça de moi. Et c'est vrai qu'ils pensent que j'ai quelque chose de plus que les autres. » Et en fait, je pense qu'il a une vraie prise de conscience. Donc, quelque part, oui, je pense que Roland-Garros, finalement, où les gens l'ont un peu connu sur sa mauvaise face, a été quelque chose de très important pour lui. Et je pense que le rebond vient de ça.
Oui, pendant cette petite réunion, Terence Atman a entendu beaucoup de belles choses. Il a reçu de l'amour, lui le grand sensible. Début juin, voici ce que disait Ivan Ljubicic, le responsable du haut niveau à la FFT sur le Boulonnais.
Je suis un grand fan de Terence. Et lui, quand même, je pense, tous les outils pour jouer à un niveau très intéressant. Et quand je parle de très intéressant, je pense top 30, top 20. Donc, je pense qu'il peut y arriver parce qu'il est explosif, physiquement il est fort, techniquement il y a tout. Il y a vraiment la possibilité de jouer très bien coup droit comme ça, gaucher avec le top spin. Je parlais avec Richard, il m'a dit il y a Rafa, mais après personne d'autre. Il y a cette coup droit comme lourde comme ça, c'est franchement super.
Sur les cours de Cincinnati, le coup droit de Terence Atman fait effectivement de gros ravages avec un coach expérimenté à ses côtés, Guillaume Père, qui avait accompagné Marcos Baghdatis en finale de l'Open d'Australie 2006. Le nordiste a gagné en maturité et s'il bat Yannick Sinner ce soir, il sera, entre guillemets, interdit de qualification à l'US Open. Quand je vous disais qu'il ne faisait rien comme les autres, et j'ajoute qu'il n'a pas d'agent, plus d'équipementier, il achète ses chemisettes comme le joueur du dimanche.
Ah oui, effectivement, Terence Atman, un incroyable parcours qui nous permet, nous, de le mettre en lumière dans les GG. On va en parler, bien sûr. Je vous rappelle juste le débat pour nous rejoindre au 32-16. Hein. Est-ce qu'il faut arrêter de dénigrer le tennis français? Juste avant, une première réaction peut-être, Fred, Pascal, Olivier, sur ce parcours est étonnant. Quoi. On le découvre, Terence Atman, 23 ans.
On le découvre, on l'a trouvé nonchalant, effectivement, à Roland-Garros, mais pour avoir parlé à Franck Pack, c'est vrai, il nous a expliqué très clairement que en sortant de là, il s'est rendu compte qu'il avait un potentiel énorme, que les gens l'aimaient, qu'il fallait qu'il donne plus, et il a été transfiguré par rapport à ça. Donc non, je pense que c'est un joueur assez exceptionnel. Bon, on a parlé de son coup droit, hein, qui est quand même qui est incroyable pour un gaucher. mais objectivement, ce garçon a énormément de potentiel. Mais quand on est HPI, c'est compliqué parfois de se rendre compte des choses. On est très sensible. On intellectualise un petit peu tout. Je crois qu'il avait besoin justement de cette remise en question, mais à la fois cet amour montré. Je pense que c'est quelqu'un qui peut aller très très loin, vraiment. Moi, Franck Pack m'a dit pourquoi pas gagner un jour un grand chelem.
Ah ouais, carrément.
Ah ouais, ouais. Et pourtant, il l'a pas épargné dans son interview. Vraiment, il expliquait que parfois c'était compliqué, etc. Mais pourquoi il a dit qu'il avait le potentiel. Après, encore une fois, hein, il faut qu'il travaille. Il y a plein de choses pour gagner un grand chelem. Mais c'est un de ces joueurs qui a ce potentiel.
Bon, ça sera à suivre face à Sinner, évidemment. Hein, ça sera un exploit monumental s'il pouvait battre le numéro 1 mondial. On n'en est pas là, Olivier. Mais
pourquoi
bon, voilà. Oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas.
Il marche sur l'eau, là.
Non, mais j'ai. Pour faire un très grand sportif qui réussit et qui réussit au plus haut niveau, il faut plusieurs facteurs, de la personnalité, aussi un talent très particulier, hein, faut toujours avoir un talent, mais aussi ce qui est intéressant dans ce joueur, c'est son parcours de vie, les choix qu'il a fait, parce que là on parle du moment où il est devenu professionnel, mais depuis tout jeune il vit tout seul, depuis l'âge de 13 ans il a pris des risques incroyables, il s'est entraîné sous l'eau, il a pas eu les meilleures conditions d'entraînement dans son parcours, et derrière il a un talent particulier, c'est-à-dire qu'il y a longtemps que j'avais pas vu une frappe de balle comme ça de la patte gauche, quoi. Ouais. Donc ce talent particulier,
Arthur Fils, de la patte gauche, oui. Mais depuis qu'Arthur Fils, malheureusement, est blessé, parce qu'Arthur Fils, il tape du droit, mais il tape fort aussi. Hein.
Ouais, ouais.
Donc, ce qu'on voudrait dire, c'est pour aller dans le débat, pardon de te couper, Olivier, mais il y a beaucoup de joueurs français. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi Fred va tailler le tennis français. Parce que si on regarde les hommes, ils sont 13. Ils sont 13 dans les 100 premiers.
13 dans les 100 premiers, ça veut rien dire, tu vois. Parce
ouais,
ça veut dire pas moi des 10 premiers, mais tu me dis 13 dans les 100 premiers.
Ça veut dire, malheureusement, c'est ce que j'allais dire. Malheureusement, cette densité, aujourd'hui, elle n'est pas confirmée parce qu'il n'y a pas encore de joueurs français qui sont dans les 10.
C'est quoi, mais c'est Arthur quoi, Fils, deux joueurs dans les 10, c'est 2012, je crois. 2012-2014, la dernière fois où il y a eu deux Français. 2011,
mais ça ne
saurait
tarder. C'est pour ça qu'il va falloir que vous soyez, comment dire, un peu plus sympa avec les tennismen, notamment.
Alors, comme on dit, on est critique.
C'est pour ça, dénigrer pour nous, c'est beaucoup trop fort, mais il faut constater la réalité. En fait, tu viens l'expliquer, la réalité.
Okay, donc, il fallait changer la...
On la comprend, la question, tu sais, tu connais François, tu sais que son écriture est un peu moyenne parfois, c'est de la faute de François.
Mais j'assume totalement.
Mais juste pour revenir à ce que tu disais, Pascal, c'est clairement, on a une densité, mais elle n'est pas au bon niveau. On est top 100, c'est pas suffisant. On veut des joueurs dans le top 10, on veut des joueurs capables de gagner un grand chelem. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, critiquer.
Je pense que si Arthur Fils n'avait pas été gêné par ses blessures,
oui, mais si,
il serait déjà dans le top 10.
Pascal, moi je t'adore, mais arrête de faire du sport fiction.
C'est dommage que je ne sais pas si Eric a été enregistré ou s'il est là.
Il est là, Eric, bien sûr.
Eric, s'il n'est pas blessé, il serait déjà dans le top 10. Mais arrêtez.
Si j'ai qualité physique de Michael Jordan, alors, peut-être que je serais meilleur aussi. Hein.
On va laisser finir Eric justement sur.
Il a le potentiel pour être dans le top 10. Et pas que lui. Et pas que lui.
Non, mais Pascal est un vrai connaisseur du tennis, bien sûr.
Merci.
Aurait été top 10, s'il n'avait pas eu ses pépins au dos. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il va participer à l'US Open. Donc, c'est sérieux, hein, sa fracture de fatigue au dos. Et ça l'a coupé dans son élan, mais il a le potentiel. Mais pour revenir sur Terence Atman, vous faites des comparaisons avec le coup droit d'Arthur Fils. Vous trouvez pas qu'il y a une sorte de Riton Lecomte?
Si, dans c'est ça que je voulais dire, ouais. Mais j'ai pas osé.
Ah, mais excuse-moi.
On dirait Riton, on dirait Eric, Henri voilà. Lecomte. Ouais. Et Henri Lecomte, il avait aussi ce revers qu'on savait pas quand est-ce qu'il allait le lâcher, mais il y a de ça, c'est imprévisible. Et ça, pour moi, c'est un signe de ceux qui peuvent réussir très haut.
Ouais. Et surtout, sa vie va changer maintenant, parce que quand t'es dans le top 100, tu fais plus les qualifs, ta vie est plus simple, tu gagnes mieux ta vie, et ça, c'est une très bonne nouvelle, par
contre. Écoute, j'ai écouté son interview, et là, tu vois que le mec, il a un QI supérieur parce qu'il triche pas. Hein, ça triche pas du tout. Et il est hyper lucide sur le fait que ça va changer sa vie, ça va changer sa manière de s'entraîner.
Bien sûr.
Parce qu'on parle toujours du top 100. Et là, c'est juste une nouvelle vie qui commence pour lui. Quoi.
Et ben, passe décisive d'Olivier Giraud. On va l'écouter justement, Terence Atman, après sa qualification pour les demi-finales à Cincinnati et cette nouvelle vie qui l'attend.
Rien ne peut décrire ce que je ressens, c'est incroyable, je ne peux pas y croire. Être ici en demi-finale d'un Master 1000, entrer dans le top 100, c'est aussi beaucoup d'argent pour développer ma carrière. Je suis ému, ça représente beaucoup pour moi.
Voilà, beaucoup d'argent pour développer sa carrière et ça c'est ultra important pour des joueurs qui ont des difficultés parfois.
Poser une question à Eric, est-ce qu'il a fait partie de ces joueurs qui ont été énormément aidés pour pouvoir progresser depuis sa jeunesse ou
c'est comme
ce que j'ai lu, il a un petit peu galéré sur le début de sa carrière, en tout cas sa carrière jeune à l'âge de 13 ans.
Oui, parce qu'il n'était pas parmi les tout meilleurs dans ces catégories d'âge et surtout il avait un gros problème de comportement, c'est-à-dire qu'il cassait beaucoup de raquettes et en cadet junior, il perdait beaucoup de matchs parce que les mecs en face savaient qu'il allait dégoupiller. Donc il y a un moment, ses parents l'ont investi et j'ai écouté une interview de son papa là sur Fréquence Nord, enfin sur une radio concurrente. Ils attendaient ça depuis 10 ans parce que c'est beaucoup de sacrifices. Ils l'ont emmené dans des tournois aux quatre coins de l'Europe. Ils n'étaient pas trop aidés par la Fédé, même si depuis quelques temps, il avait les wildcards. Il a eu 2 wildcards à Roland-Garros, parce que Franck Pack a beaucoup de poids à la Fédération Française de Tennis et qui croyait en son joueur. Mais non, il a jamais bénéficié d'aide. C'est comme Loïs Boisson. Ce sont deux parcours de vie totalement singuliers. Et c'est sûrement pas un hasard si ces deux-là percent. Alors que quand vous êtes soutenu par la Fédé, peut-être que
on est dans un confort, peut-être. Exactement. C'est ça.
C'est ce que Djokovic reprochait un peu au système français, c'est-à-dire que quand t'es en Russie ou en Serbie, si t'es pas bon, t'existes pas, quoi. T'es obligé de te les sortir pour pouvoir réussir, quoi.
T'as pas le choix. De là, effectivement.
Non, pas que, parce que tu peux réussir aussi en te mettant dans les très très bonnes conditions.
Après, c'est dur de dire, on les met dans les meilleures conditions, ils ne suivent pas.
C'est une réflexion entre la sélection et la détection.
Alors, sur Altman, est-ce que vous croyez au feu de paille? C'est un peu ça, quand on dit doit-on arrêter de dénigrer le tennis français, c'est la question qu'on vous posait. Juste un chiffre aussi, c'est le 5e joueur en activité, Eric, on est d'accord, à aller en demi-finale d'un Masters 1000, ce qui n'est pas rien, bien sûr, après mon fils. Mais après, les autres, c'est Benoît Paire, Lucas Pouille, Hugo Humbert. Et forcément, des joueurs qui n'ont pas eu ensuite.
Son gars en a gagné, que son gars il n'y a pas si longtemps qu'il est
à la retraite. Oui, je parle des joueurs en activité, bien sûr. Non, mais tout à fait. Mais je veux dire, dans ces joueurs-là, il n'y en a pas beaucoup qui ont confirmé derrière. Donc c'est toujours la grande question dans le tennis français. Est-ce que Terence Atman, c'est un feu de paille ou non?
Moi, je pense qu'il a compris. Je crois qu'il a compris plein de choses. Son niveau de jeu, Eric l'a expliqué, c'est quelqu'un qui a un vrai potentiel. Donc moi, je ne pense pas. Je pense pas, mais pour l'instant, je demande à voir quand même. Mais je pense pas, parce que je pense qu'il a tout. Intellectuellement, il est structuré. Maintenant, il est géré par rapport à son HPI. Et en plus, encore une fois, je me répète, mais son coup droit est incroyable. Donc honnêtement, je pense pas que ce soit un feu de paille, vraiment.
Feu de paille, d'abord,
faut qu'il y ait un feu. Tu me reproches d'être dans la fiction.
D'abord, pour se dire si c'est un feu de paille, faut qu'il y ait un exploit, faut qu'il y ait un feu déjà.
Ah, déjà, il les a fait, les exploits.
Mais pour qu'il y ait un feu de paille, pour se dire qu'il faut qu'il y ait un exploit d'abord, là, il a réussi. Maintenant, on va regarder ce qu'il est capable de faire. Et je pense qu'avec ce type de personnalité, comme le disait Eric, des personnalités un petit peu à la Henri Lecomte, surtout sur cette manière imprévisible de jouer, en fait, moi, j'aime ce type de joueur qui peut surprendre les meilleurs. Et c'est ce qu'il a fait, c'est parce que son jeu surprend les meilleurs, mais quelle puissance! À un moment, il a mis un coup droit à 180 km/h. Je ne sais pas si on se représente bien, mais le retour pour celui qui envoie, il est pratiquement immédiat, quoi.
Et je voudrais revenir sur la densité dont on parlait tout à l'heure et que vous avez balayé parce que j'ai dit qu'il y avait 13 joueurs dans les 100 premiers. Vous pensez que c'est ridicule. Mais cette densité, forcément, elle va amener à un joueur français très prochainement dans le top 10. C'est inéluctable, tout simplement. Parce qu'ils sont nombreux à faire des perfs. Voilà, quand Hugo Humbert, il va être 22e, Müller, il va être 38e. Bon, 38e au monde.
C'est très bien.
C'est pas n'importe quoi. Donc, ça veut dire que tu peux t'autoriser à aller voir plus haut. Et les joueurs français sont en nombre à espérer rentrer dans le top 10.
Ouais, Pascal Duprat consulte avec sa boule de cristal tous les samedis sur RMC.
Tu étais dans la projection.
Mais j'ai dit que j'espérais, Pascal, tu n'écoutes pas, tu ridiculises, il a un coup droit du gauche, tellement magnifique, il est structuré mentalement, il est HPI,
donc je pense que c'est pas un feu de paille.
Alors,
c'est pas de la projection, j'ai dit que c'était possible.
Pascal,
alors,
écoute,
juste avant de prendre Alexandre au 16, Eric, sur cette densité dont parle Pascal, c'est vrai que tous les pays ne peuvent pas prétendre avoir autant de joueurs dans le top 100. 13 joueurs dans le top 100.
Oui, mais enfin bon.
Oui, d'accord.
Je suis plutôt d'accord avec
vous. Voilà, pas Kérim, il me démonte.
Voilà.
Mon seul défenseur, il me démonte.
On va pas s'exciter.
Pascal, le juge de paix.
Seuls les États-Unis font mieux.
C'est les grands chelems.
Mais bien sûr.
C'est les grands chelems, le juge de paix.
Voilà.
C'est là qu'il faut briller. C'est parce que ça rapporte plus de points, parce que c'est des matchs en 5-7.
C'est un impact.
C'est un impact énorme. Pour l'instant, en grand chelem, cette année, c'est pas génial qu'on fait le bleu.
On est loin.
On va pas s'exciter.
Bon, Alexandre est avec nous au 32-16. Salut Alexandre.
Bonjour messieurs, comment allez-vous?
Ah ben c'est Alexandre que l'on connaît. Alexandre. Je connais Alexandre qui vient régulièrement nous voir pour les débats tennis dans les GG.
Pas seulement, hein.
Pour les débats.
Bah, il y a deux semaines, j'étais venu pour parler football quand même.
Ah c'est vrai, voilà. Bah, donc tu es tout terrain. On t'écoute Alexandre.
Bah, moi je pense que avant de se poser la question faut-il arrêter de dénigrer, il faudrait poser la question faudrait-il arrêter de s'enflammer, surtout de les enflammer, parce que il est encore jeune, Terence, et il est en demi-finale de Cincinnati, mais il n'a pas encore gravi cette colline, Terence. Parce qu'on s'est aussi exprimé sur la même question sur Arthur Fils, sur Giovanni Mpetit-Péricard. Moi, je me souviens des précédents, vous avez parlé de Lucas Pouille. Quand il était tout jeune, Lucas Pouille, on a dit « ça y est, c'est limite le futur successeur de Yannick Noir », parce que l'attente numéro un en France, c'est ça. Et puis finalement, la suite de sa carrière, c'est parti en cacahuète, c'est comme Benoît Paire. Les mousquetaires, ils ont gagné la Coupe des Fils, ils ont fait des performances intéressantes, mais insuffisamment par rapport à ce qu'on pouvait peut-être espérer au départ. On s'est dit, Gasquet, il a battu Nadal au tournoi des petits as, machin et tout. Puis finalement, en circuit ATP, c'est toujours l'Espagnol qui a gagné, je suis désolé.
Il a fait une belle carrière quand même, Charles Gasquet.
Oui, non, mais je ne dis pas le contraire. Je dis, si on veut que les nouveaux arrivants atteignent les objectifs qu'on attend d'eux, évitons de s'enflammer dans les médias et évitons de les enflammer, de fait.
Oui,
parce qu'il faut arrêter d'en parler.
On ne parle pas de Terence Atman qui est en train de réaliser la plus belle semaine de sa carrière, c'est
il
ça
vient
ce
de
dire,
top 10, on dit rien.
Je dis pas qu'il ne faut pas en parler, il faut en parler. Je dis qu'il ne faut, faut pas en parler d'une certaine façon. Il ne faut pas les laisser croire que ça va se faire presque naturellement. Il faut faire attention à ça.
Ok. Oui, bon, on stoppe à l'enflammade. C'est le message d'Alexandre.
On s'enflamme pas. Et en fait, Alexandre, tu t'enflammes plus que nous, puisque tu l'appelles par son prénom. Terence par-ci, Terence par-là. Ok.
Quel salaud, celui-là.
Alexandre.
S'il vous plaît.
Oui, Alexandre. Tu voulais rajouter quelque chose.
Non, t'aimes bien le prénom.
Vas-y.
Ah, non, mais quand je disais, il est encore jeune Terence, il n'a pas gravi cette colline Terence, c'était deux allusions que vous n'avez pas remarquées.
Oui.
Mais si.
Voilà.
Vas-y, on est. Vas-y, poursuis.
Terence Young, mais vous êtes.
Terence Hill, la colline. Ah, Terence Hill, c'est un acteur.
Et Terence Young aussi.
Ah oui.
Terence Van Darby aussi.
Oh là, excuse-nous, on n'est pas HPI. Nous.
Merci Alexandre. Non, merci beaucoup merci d'être passé et d'avoir élevé le niveau. Heureusement qu'il est là pour relever le niveau.
Tu l'as dit que c'était les grandes gueules
merci
du sport.
Merci beaucoup. Non, mais heureusement qu'il est là. Merci Alexandre. Terence Hill, bien sûr, qu'on connaît. Tiens, une dernière déclaration de Atman, justement. Et ça, c'est intéressant, Eric. Il dit Sinner, une personne avec deux bras et deux jambes comme moi. Donc, je vais voir ce que c'est que le très très haut niveau. J'ai hâte. Je vais l'attaquer comme les autres matchs. Voilà.
Tu sais quoi?
Donc ça donne envie quand même.
C'est un match qu'on a envie de voir ce soir. Hein. Ouais. En plus, c'est l'anniversaire de Sinner. Bon, moi, on va lui gâcher son.
Ah oui, si on peut.
C'est Daniel Constantini qui disait qu'il y avait deux types de très très grands joueurs. Soit ils étaient très bêtes.
Et
doutait de rien, soit le mec très très intelligent.
Eh ouais, d'accord.
Pascal Seferé, je l'ai très très.
Terence. Et il est très intelligent.
Voilà. On en restera là. Merci beaucoup, Eric. Soir ce match entre Terence Atman et Yannick Sinner. Et on en parlera peut-être demain, parce que s'il fait l'exploit. On s'enflammera un petit peu quand même les GG demain. On en parlera demain. On revient tout de suite sur RMC avec le dossier des GG autour d'une révolution possible à venir en Formule 1. Les grilles inversées. C'est le patron de la F1 qui a évoqué l'idée pour relancer le spectacle. Faire partir les derniers devant, les premiers derrière. Voilà l'idée. On vous explique tout dans un instant sur RMC. A tout de suite, restez avec nous.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
François Pinet. Pascal Duprat, Olivier Giraud, Fred Weiss m'accompagnent ce matin et vous accompagnent si vous êtes sur la route. Bon courage à tous hein, d'ailleurs. Et bonnes vacances si vous en avez. Les grandes gueules du sport, c'est jusqu'à midi avec dans 15 minutes le débat caché. Vous le savez, les GG ne savent rien. Il n'y a que moi qui connais le débat. Et ils vont devoir débattre. Donc c'est toujours un grand moment. Mais d'abord, avant cela, c'est l'heure d'ouvrir le dossier des GG.
RMC, le dossier des GG.
Alors c'est un dossier qui nous permet de parler de Formule 1 ce matin. Stefano Domenicali, qui est le patron de la F1, a relancé cette semaine dans une interview la possibilité de mettre en place des grilles inversées lors des courses sprint en Formule 1. Dans le podcast anglais The Race, voilà ce que dit le patron de la F1. À propos des courses sprint, je crois qu'il existe une possibilité de mettre en application deux choses. La première, pouvons-nous augmenter le nombre de sprints dans la saison? Et la deuxième chose, est-ce la bonne course pour mettre en place une grille inversée comme nous le faisons en F2 et F3? Je pense que nous sommes arrivés à maturité pour discuter de ces points sérieusement. Il y a une tendance vers cette direction et je suis prêt à mettre le sujet sur la table. Il explique qu'il doit d'abord évidemment en discuter avec les pilotes, les équipes et la FIA. Il évoque donc les grilles inversées en F2 et en F3, ça existe déjà. En F2 et en F3, chaque week-end, il y a une séance de qualification le vendredi, suivie donc d'une course sprint le samedi. Les 10 premiers en F2 et les 12 premiers en F3 voient leur position inversée sur la grille. Le plus lent est en pole position pour ces courses sprint. Le but, c'est de mettre évidemment plus de piment, plus de spectacle, mettre en valeur aussi. C'est ce qui est dit, les pilotes moins bien classés qui passent en général leur temps derrière habituellement et qu'on voit peu lors des courses.
Alors, qu'ils puissent voir enfin la route, quoi.
Voilà. Est-ce que cette idée des grilles inversées, est-ce qu'avec cette idée, la F1 va trop loin, les amis? À votre avis, Olivier, oui ou non?
Oui.
Fred?
Non.
Et toi, Pascal?
Non.
Alors, juste une précision, les pilotes se montrent plutôt opposés à cette idée. Hein. Depuis le début, c'est pas la première fois que c'est évoqué. Il y a Vettel, notamment, en 2019, qui disait « c'est une belle connerie hein. ». Certes, nous devons réduire les écarts entre les différentes voitures, mais c'est vraiment pas la solution. Voilà un des exemples de pilotes. Lui, il n'est plus sur le circuit, mais il faudra demander l'avis des pilotes actuels qui ne sont pas forcément pour cette idée-là. Toi, Olivier, t'es contre vraiment ces grilles inversées?
Ouais, je suis contre. Bon, en même temps, c'est pas une super idée. Hein. Il le dit, ça existe déjà, ça existe dans les
en F2, en F3, oui.
Et au karting aussi. Ouais. Ça existe aussi au karting. Bah, donc,
pourquoi pas en F1?
Non, le truc, c'est qu'il va falloir commencer à arrêter de changer les règles tout le temps. Je pense que depuis 2011, l'arrivée du DRS, des moteurs hybrides. Et là, on n'était que sur la technologie. Ça serait bien de stabiliser un petit peu les règles, qu'on y comprenne quelque chose à la Formule 1. Et après, je peux comprendre que les coureurs n'ont pas envie de ça, et surtout les meilleurs coureurs, parce qu'en général, bien que la voiture y fasse beaucoup quand même dans la course, les pilotes qui sont derrière, c'est pas les mêmes non plus. Donc, ça va pousser en fait les meilleurs coureurs à devoir doubler tout le monde.
Ben, c'est le but.
C'est le but de tout le monde. Donc en fait, tu veux faire du spectacle, mais ça risque de faire beaucoup de casse aussi, beaucoup de casse. Et la F1, c'est pas un sport anodin, c'est un sport dangereux. Donc augmenter le danger pour faire plus de spectacle, oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas?
Non, mais en termes de sécurité, s'il y a bien un point où on peut pas, comment dire,
ouais, ça s'est amélioré.
Les organisateurs, bah, ça s'est beaucoup amélioré. Aujourd'hui, ils sont pratiquement en pleine sécurité.
En tout cas, je t'assure que ça marchera pas parce que tu sais, c'est un petit peu comme dans tous les sports, tu sais, avec le Real Madrid, Barcelone et compagnie. Ouais. Je pense que les plus grosses écuries, elles vont mettre un frein à ça assez rapidement. Donc, je pense que c'est une idée qui va juste passer.
Hein, ouais. C'est relancé régulièrement. Parce qu'on a vu avec les courses sprint qui sont parfois des processions pas très intéressantes.
Ça intéresse qui les courses sprint normalement? Ça intéresse absolument personne. Franchement, quand je veux voir la Formule 1, je regarde la course.
Bah, c'est pour
la
course relancer sprint, ça
n'intéresse personne.
Donc le dernier sera le premier. C'est ça le sport maintenant. Le dernier sera le premier.
Moi, je trouve que c'est déjà magnifique comme idée. Et c'est surtout que ça va relancer l'intérêt. Moi, ça me fait penser à du divertissement encore une fois. Je pense qu'ils feront tout pour que ça se passe bien en Formule 2.
Moi, je pense que soit au marathon, les Kenyans, ils devraient partir 10 minutes après.
Mais tu vois, nous, en Coupe de France de basket, quand on est une équipe mieux classée, on part avec des points d'avance, de retard, pardon.
Ah ouais, vous êtes encore là-dedans au handball, il y a des savants, d'arrêter ça.
Donc, ça veut dire que c'est pour essayer d'équilibrer un peu, pour qu'il y ait un vrai suspense, pour qu'il se passe quelque chose. Ben, je pense qu'ils tentent le coup, ça ressemble un peu à Mario Kart. Et d'ailleurs, j'ai une bonne idée.
Moi, je pense que Duplantis, on devrait lui mettre un sac à dos.
Tu sais quoi, j'ai une idée pour Duplantis, moi. On devrait faire du tirage à courte paille.
Il devrait sauter avec un cure-dent.
Non, le tirage à la courte paille, Pascal, avant chaque saut et tirage à la courte perche.
Tu fais la courte perche et t'as la
celui qui est rapide, tant pis pour toi. Tu sauteras pas si tu mets 29.
Peut-être qu'un Français.
Peut-être que ça pourrait relancer l'intérêt. Non, mais le divertissement, c'est important. Et relancer un intérêt, c'est important. Il tente des choses, ça marche.
Je suis complètement d'accord avec toi.
C'est en 2003, donc voilà.
Pascal.
Très bien. Je suis complètement d'accord avec Fred et ce que je voudrais bien, parce que j'ai cherché depuis hier et je trouve pas d'avis des pilotes, les pilotes d'aujourd'hui, hein, je parle.
Bah, il y a George Russell qui a connu ça en F2, en F3, qui dit, alors lui, il parle d'autre chose, il explique que, aujourd'hui, il est chez Mercedes, il dit, si vous avez les 10 voitures les plus rapides, bah, la voiture la plus difficile à dépasser, c'est celle avec laquelle vous vous battez et qu'en gros, bah, vous allez avoir la voiture la plus rapide juste devant vous et puis celle-ci aura la voiture la plus rapide juste devant, etc. Ça va juste créer un train d'air. Ce qui n'est pas quelque chose de formidable pour le suspense.
Ouais, la débonne idée. George Russell, il pensait aussi enlever le Grand Prix de Monaco.
Il
n'y
aura pas
tu vois,
donc, que ça. Voilà ce que dit George Russell.
Russell, il voulait enlever le Grand Prix de Monaco.
Donc, en fait, moi, je pense que toutes les idées pour faire en sorte que nous soyons captivés davantage que nous le sommes aujourd'hui, quand on regarde même un Grand Prix de Formule 1. Moi, c'est difficile de regarder un Grand Prix de Formule 1 du début à la fin.
Quand t'as des McLaren qui dominent beaucoup.
Pascal, c'est un peu comme si on allait dans le vestiaire au foot et qu'on montrait tout pour essayer de donner l'intérêt un peu. C'est ça que je veux dire.
Et donc, non, mais je trouve qu'aujourd'hui, la F1 souffre de la comparaison du MotoGP, où quand on regarde, déjà, c'est plus court, c'est pas toujours le même leadership, il y a des dépassements, malheureusement des chutes, souvent sans gravité, parce que là encore, la sécurité est au point. La Formule 1, aujourd'hui, c'est un train lancinant là, qui passe et qui permet de faire la sieste. Je suis désolé de vous dire ça.
Ouais.
Et c'est pour ça que si
jusqu'à
ils tentent de
Grand Prix par exemple, parce que là on parle des courses sprint, hein.
Peut-être pas pour le Grand Prix, je sais pas, je suis pas assez initié dire.
Pascal, mais je vois pas des carapaces et
non
des,
mais à la limite ils pourraient peut-être je leur donne une idée, pourquoi ils partent pas en marche arrière. Voilà, ça serait sympa.
Non, mais
je suis pas sûr qu'il y ait un marché sur voiture.
Le débat, il est un petit peu général. Ça veut dire qu'on a un petit peu eu ce débat-là sur le foot. Hein.
Mais on est d'accord.
Là, on est en train d'avoir un petit
peu ce même ligne
débat-là
de conduite,
sur la F1. En fait, l'argument, c'est s'il vous plaît.
Divertissez-moi.
Non, mais à la base, quand même, les mecs, quand ils font leur sport, c'est pas pour te divertir, hein, c'est pour gagner. C'est pour essayer d'aller au plus haut niveau.
Et ce plus haut niveau
t'amène à un divertissement, parce que le haut niveau, c'est un divertissement. Mais prendre les gens et dire, en fait, là, votre truc, il m'amuse pas assez, faudrait peut-être changer les règles. Ça, je suis pas
alors
pour
du tout. Je vais essayer.
Je vais aller plus loin dans
le débat et dans l'analyse. Aujourd'hui, certes, les pilotes sont des artistes, c'est des champions d'exception. Mais malheureusement, ça joue tellement dans les stands que quand t'es téléspectateur, tu t'en rends pas compte de ça. Tu te dis, mince, bon Dieu, ils ont mis une seconde ou de plus pour changer les pneus. Et voilà pas qu'il a perdu trois places. Voilà ce qu'on retient de la F1 aujourd'hui.
Après, donc, la F1, ils sont là aussi.
C'est tellement réglementé qu'on voit plus les prouesses des pilotes comme on le voyait avant.
Les pilotes ne peuvent pas accepter les bonnes choses et pas les mauvaises. C'est-à-dire que, et comme tu le dis, ils sont là pour faire du business.
C'est des Américains. Liberty Media, ils ont acheté les droits de la F1 8 milliards de dollars.
Mais c'est surtout qu'ils sont là pour faire du business, mais les pilotes s'y retrouvent aussi parce que leurs salaires sont en conséquence, parce qu'il y a du business. Ça changerait tout s'il y avait moins de business. Donc, il faut s'adapter aux demandes des spectateurs parce que c'est eux qui payent finalement. Je suis désolé.
Donc voilà pour cette idée qui va sans doute être relancée. L'idée aussi d'avoir de plus de courses sprint. Il y en avait 6 sur 24 là, cette saison. Et ça progresse tous les ans. Donc là, pareil, c'est une autre idée émise par le patron de la F1 pour qu'il y ait un peu plus de spectacle. Voilà, tout simplement.
C'est un peu plus punchy. Pour mieux vendre son produit.
Et l'autre argument intéressant, c'est qu'il y a des pilotes. On ne connaît absolument pas leur nom. On les voit là en bas de grille. On ne sait même pas ce qu'ils font. Et là, ça les mettrait en valeur quand même. C'est-à-dire le temps du week-end, on les verrait premiers.
Oui, on se dirait, c'est les nuls qui sont devant là. Je ne suis pas sûr que ce soit les mettre vraiment en valeur. Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit. C'est eux qui vont se faire doubler des premiers.
Je ne suis pas certain que ce soit des nuls.
Oui, mais c'est ce que les gens diraient. Je ferais un raccourci.
Tu sais, il y a une scène. C'est là où ils peuvent se révéler aux yeux du grand public parce qu'ils résistent, par exemple, à une voiture plus forte derrière eux. Par exemple.
Alors, cette chaîne a une fameuse phrase quand commence le Grand Prix, c'est rendez-vous au premier virage.
Oui.
Rendez-vous à la catastrophe.
Julien Febvre. Oui, pourquoi ?
Ah, le premier virage, là, il va être magnifique. Course de sprint, ça va être magnifique.
Après, il n'y a pas non plus de temps d'écart que ça.
Non, mais c'est surtout que ce sera les 10 premières voitures quand même. Hein. Ce sera pas toutes les voitures qui vont
parler.
En F2, c'est 10. En F3, c'est 12. Ça sera pas beaucoup plus, parce que c'est justement beaucoup plus dangereux.
Oui, peut-être qu'il y aura une limitation.
Il y aura une limitation, évidemment.
Ce sprint, t'inquiète pas.
Évidemment. Donc, ça sera toujours les meilleurs, finalement, quand même.
Ouais, au final.
Donc, Pascal se trompe en disant qu'on verra des pilotes qu'on ne verra pas.
C'est moi qui
dis. Mais toi, on a l'habitude que tu trompes pas ça. C'est plusieurs fois.
En fait, t'as décidé de.
Oui, il est très désagréable ce matin.
Pourquoi t'es méchant?
C'est pas grave, Fred. Continue, Fred. Ça te ressemble pas. Ça te ressemble tellement pas. Bon, continue.
Je pense qu'on demandera l'avis à Jean-Luc Roy un jour sur ce débat, mais j'ai à peu près une idée de.
Moi aussi, je vois ça.
Je pense qu'il est un peu dans le camp d'Olivier Giraud sur ce coup-là. On revient dans un instant, les GG. Vous restez avec nous, évidemment, pour le débat caché. C'est dans un instant. Elles ne savent absolument pas de quoi on va parler, mais elles vont être parfaites sur les débats. N'hésitez pas à nous rejoindre, 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Encore un quart d'heure à passer ensemble dans les grandes gueules du sport.
Ça paraît long, hein.
Ah oui, mais c'est la fin. Fred Weiss est là, vous l'avez compris, Olivier Giraud, Pascal Duprat également dans les grandes gueules du sport depuis ce matin. N'hésitez pas à retrouver le podcast sur l'appli RMC. Et merci d'ailleurs à toi qui nous écoutes en podcast, peut-être en ce moment même. Tout de suite, c'est l'heure du débat caché dans les GG.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Et vous le savez, les GG ne savent rien. Elles vont devoir débattre.
Ah oui, c'est long le dernier quart d'heure.
Les GG ne savent rien, elles vont devoir débattre sur ça.
Venus Williams, back with a bang, and becomes the oldest WTA Tour winner since 2004. At the age of 45.
Il est question de tennis. Et de Venus Williams, qui va devenir la joueuse la plus âgée de l'histoire à disputer l'US Open depuis 1981. 45 ans, l'américaine a obtenu une wild card pour être invitée lors de ce tournoi du Grand Chelem et faire partie du tableau pour la 25e fois de sa carrière. Elle n'a remporté qu'un match depuis son retour à la compétition après 16 mois d'absence. C'était à Washington. Ok, elle a remporté deux fois l'US Open. Mais aujourd'hui, elle est 577e mondiale. D'où ma question, les GG. Venus Williams, invitée à l'US Open, est-ce normal ou injuste? Pascal Duprat.
Normal.
Fred Weiss.
Injuste.
Olivier Giraud.
T'es le roi de l'entertainment et là tu dis injuste.
Mais il n'y a pas d'entertainment si t'as une mamie qui joue sur le court, ça sert à rien.
Mamie est remplie les stades.
Oui, ben.
injuste.
C'est normal et injuste à la fois. Normal et injuste à la fois, ça dépend de quel côté.
Dis-moi,
tu te
places. Dis-moi, toi, t'es suisse.
Non, c'est
pas facile.
Injuste.
Pas
non,
facile c'est, quand pour, même de
pour,
trancher.
Pour moi, c'est injuste, mais c'est aux États-Unis. Alors. Et aux États-Unis, le show passe avant tout.
Alors, c'est injuste quand même.
Ah, pour moi, c'est injuste, oui.
Par rapport aux autres joueurs, c'est ça.
Bien sûr.
Bah quand c'est 570, évidemment que c'est
560e mondial. Non,
à un moment,
45 ans.
Moi, je suis pour l'entertainment, mais à un moment, il faut quand même être raisonnable. Quelqu'un qui joue à ce niveau-là, qui est retombé, pardon, à ce niveau-là, c'est pour moi, bah, t'as pas le niveau, tu dois pas y être. Il y a des joueurs qui se battent pour y être. Il y a des white cards.
Elle a battu la 35e au dernier tournoi.
Pourquoi
tu dis qu'elle a pas le niveau?
Parce que
elle a quand même battu la 35e.
Elle a pas le niveau. Effectif, je suis désolé, les 560e.
Ça veut dire quoi le niveau effectif par rapport à niveau?
C'est-à-dire dans les 100 premiers, dans les 120 premiers, dans les 200 premiers. Voilà.
Elle pique la place à qui là? C'est une wild card.
Elle pique la place à personne. Si, à quelqu'un certainement plus jeune qui aurait mérité d'avoir une wild card par exemple.
Parce que ça sert à quoi aussi les wild cards?
Mais c'est pour découvrir des jeunes aussi, les wild cards. Mais je comprends pas. Alors là, par contre, Pascal, vraiment. Jusque là je blague.
Mais
là,
c'est une légende, elle a gagné deux fois l'US Open.
Là tu me choques.
Elle a 45 ans. Elle décide de revenir.
Tu veux pas que les jeunes soient mis en avant? Tu préfères des vieilles légendes qui ont aucune chance de gagner? Moi j'étais d'une tristesse, Pascal.
J'ai
extrêmement surpris. Moi je pensais que tu respectais les jeunes, la formation.
Tu sais quoi?
Les jeunes qu'on ne connaît pas.
Écoute, là c'est pas une menace. Mais tout à l'heure on va faire en privé quand tu vas repartir à Limoges. Pendant ton voyage, je vais t'insulter. Et tu vas voir.
Et Pascal, c'est alors je te dis quand tu veux.
Non mais elle pique la place de personne. Si, si, désolé. Alors, les organisateurs d'un tournoi ont le droit d'inviter des joueurs. Donc là, des joueuses. Ils pensent. Vous me parlez tout à l'heure de business. Je pense que elle va faire beaucoup de monde.
Le
stade va être rempli.
Elle le fait.
Ok. Elle a battu dernièrement après son comeback la 35e. Mondiale et elle a décidé de revenir sur le circuit.
Il paraît que
c'est lui la chance d'être à l'US Open.
C'est une bonne idée ou pas?
Non,
mais il n'est pas véléitaire. Il n'est pas véléitaire, Yannick Noah.
Mais à Roland Garros, ils invitent des Français aussi. Et sans doute, si on avait eu un Français qui avait gagné Roland Garros, ils auraient invité à chaque fois.
Il y a cette latitude. Les organisateurs ont cette latitude d'inviter qui ils veulent. Et donc, moi, je pense que ça a du sens.
Oui, je suis d'accord.
Voilà, c'est tout. Elle n'est pas larguée, c'est pas vrai. Elle a juste 16 mois. Elle a arrêté 16 mois la compétition.
16 mois à son âge, c'est pas pareil que 16 mois par quelqu'un qui a 25 ans, Pascal. Tu peux pas comparer quand même.
Je te le concède, ça, parce que ça, c'est une lapalissade. Donc, tu vas réfléchir à ce que tu m'as dit dans le train, en allant à Limoges. Je vais t'envoyer des textos.
Non, la vraie inquiétude, Pascal, c'est plutôt sur l'état du tennis féminin mondial. C'est-à-dire que quand le retour des sœurs Williams est appelé au secours à grand renfort pour pouvoir sauver un petit peu l'attractivité du tennis féminin, c'est là qu'il faut t'inquiéter. Après, derrière, pour l'instant, c'est fait aux États-Unis. Ce sont plus que des stars, parce que nous sommes français, mais on se rend pas compte du phénomène Williams aux États-Unis. Ça va au-delà du tennis. C'est comme Mohamed Ali qui revient.
Ce
sont de vrais symboles. Ça va au-delà du tennis. Donc, aussi à peu près compréhensible pour le show et l'image du tennis. Mais par contre, ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'on ait besoin que les sœurs Williams reviennent pour donner de l'attractivité.
Je suis pas d'accord avec toi
féminin.
Là non plus. Ouais. Parce que le tennis féminin, il n'est pas attractif parce que malheureusement, il y a quelques joueuses qui dominent et que ça fait souvent 6-0, 6-1. Mais si tu as joué, si tu as regardé Victoria Mboko dernièrement, la Canadienne qui a 18 ans, j'ai pas l'impression que ça soit une vieille et j'ai pas l'impression qu'elle soit mauvaise. Et je pense que c'est la prochaine, comment dire, Williams.
Tu sais quoi?
Serena.
Vous avez entendu. C'est la prochaine, encore une fois, la boule de cristal. De Pascal.
Exactement. Non, mais t'as vu comme elle joue bien.
Elle a passé sa journée à côté de sa boule de cristal à déterminer ce qui allait se passer.
Est-ce que tu as vu la qualité du tennis de cette gamine?
Oui, sur un tournoi, sur un tournoi. Après, le tennis féminin a besoin de se raconter de nouvelles histoires. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et tout à l'heure, on parlait des ingrédients pour devenir un grand champion. Je suis désolé, même si c'est une grande championne, Sabalenka, elle ne fait pas rêver. Elle fait pas rêver parce que sa personnalité ne fait pas rêver.
Sa personnalité ne fait pas rêver.
Je suis vraiment désolé.
Alors, en tout cas, pour Venus Williams, pour revenir sur ce débat, sachez qu'une poupée Barbie, comme par hasard, est sortie au moment où on a appris qu'elle était invitée par les organisateurs de l'US Open.
Par contre,
poupée Barbie à l'effigie de Venus Williams, avec la tenue de tennis, etc.
Donc tu es en train de m'expliquer que c'est que du business, c'est ça?
Bah, je te
quelle tristesse.
C'est évidemment aussi du business la venue de Venus Williams.
Tu vois, quand je pense à Pascal Duprat, je pense pas à ça. Moi, j'imagine quelqu'un qui prône les valeurs du sport, de l'effort, de la volonté de mettre quelqu'un en avant.
Il a changé.
Il n'est pas quelqu'un de vénal comme Pascal Duprat. Pascal Duprat est devenu quelqu'un de vénal depuis les grandes gueules. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous avez cassé Pascal Duprat.
Non, mais il ne m'a pas semblé avoir tout d'un coup changé. J'ai défendu l'esprit sportif tout au long de la matinée face à deux garçons qui sont contre moi en permanence. Non. Je m'en sors pas si mal.
Moi, par définition, je m'en sors bien.
Sur le business, c'est évidemment du business, mais le business, c'est parce qu'il y a aussi une belle histoire.
La belle histoire, ça fonctionne.
Bah, la belle histoire de Venus Williams retourne à l'US Open.
La poupée à son effigie, je serais le premier à l'acheter parce que effectivement je serais fan, mais je m'en fous de l'avoir joué parce qu'à 45 ans, je m'en fous complètement.
Tu vas la regarder.
Premier tour de Venus Williams, excuse-moi, même si elle
ne passera pas.
Premier tour. Mais même si elle fait un premier tour, ça sera. C'est son jubilé. Elle n'a pas le droit d'avoir son jubilé.
Non, je trouve ça nul. Voilà. Quand on est une star aussi importante qu'elle, ça sert à rien.
Venus Williams, tu trouves ça nul?
Alors, tu sais, souvent les.
Basket, pourtant des jubilés, il y en a. Hein,
mais j'ai pas dit que j'aimais ça. Etc. Est-ce que j'ai dit que j'aimais ça?
Non, mais en tout cas.
Le deuxième retour de Jordan, je l'ai adoré. Hein. Mais le troisième, c'était compliqué.
Oui, d'accord, mais bon.
Quand t'as été, des fois, il faut laisser la dernière image que t'as.
Non, mais il est difficile d'être que d'avoir été. Et on finira sur ça.
Non, parce qu'il nous reste encore un peu de
temps. Encore la pub à lancer.
C'était pas mal.
On pourrait finir là-dessus facilement.
On pourrait presque finir là-dessus.
Je la garde peut-être pour dans 2-3 minutes.
Je vais juste finir, et là c'est pour aller dans le sens de ce que dit Olivier et toi Fred aussi. C'est quand même signaler que Stan Wawrinka, vainqueur de l'US Open en 2016, lui n'a pas reçu de wildcard, il est toujours en compétition, il est 152e mondial et lui n'a pas eu le droit aux honneurs des organisateurs. Donc là, pour le coup, lui...
Il est Suisse, il n'est pas américain.
Voilà, le Suisse, il pourrait avoir le boule ce matin.
Eh oui, mais est-ce qu'il a une poupée à son effigie, Wawrinka? Je suis pas sûr en Suisse.
Ah, il avait des bons shorts.
Non, mais tu vois, en marketing, il faut payer ses choix de shorts.
Les choix de shorts, c'était du marketing, c'était du business.
Ah ouais, je sais pas s'il en a vendu beaucoup de ceux-là.
C'est
pour aller à la plage, c'est pas mal. Bon, en tout cas, voilà, on verra, on suivra évidemment les performances ou la performance de Venus Williams à l'US Open. Ça restera un événement et Eric Salio, qui était là tout à l'heure, suivra ça forcément. L'US Open, ça commence la semaine prochaine avec les qualifications. Et oui, il y en a certains qui doivent passer par les qualifs avant d'obtenir leur place en tournoi. Voilà.
Exactement.
Et notre Français, là, il passe pas en qualif, là, parce qu'il va peut-être descendre.
Ça peut être un vrai problème. 70. Si Atman est qualifié pour la finale, la finale sera en même temps que les qualifs. Donc il ne pourra pas faire les qualifs.
Il ne peut pas faire les qualifs.
Bon, ça, c'est fou.
Bah, c'est comme ça.
On espère qu'il sera qualifié. On suivra ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier. À très bientôt dans les grandes gueules du sport. Tu as été parfait. Merci, Fred.
On ne peut pas
demain.
Être et avoir été. Là, on peut finir.
Merci beaucoup, Fred. Merci. Et on se retrouve demain avec Pascal Duprat qui sera avec nous
demain. Merci, François.
Salut,
merci,
Pascal. François. Et très, très bonne journée à toi. On se retrouve demain, vous l'avez compris, 9h, midi, les grandes gueules du sport en direct sur RMC.